par l'origine de notre monde tel que nous l'appréhendons à travers l'épaisseur des traditions, mais surtout renouvelée par les investigations scientifiques de la paléoanthropologie. Voilà, donc à ce titre, je remercie chaleureusement M. Pascal Fick d'avoir accepté de nous aider à nouveau à scruter nos origines. Pascal Fick, vous êtes paléanthropologue au Collège de France et administrateur du Muséum national d'histoire naturelle, où chacun sait que paléo signifie ancien et anthropo, l'homme, et logo, donc la connaissance. Vous êtes donc un spécialiste des origines et de l'évolution de la lignée humaine dans le cadre des théories modernes de l'évolution. Après une thèse à l'Université Paris 6 et des études postdoctorales à l'Université Duke aux États-Unis, vous intégrez le Collège de France en 1991. Après avoir introduit l'éthologie, l'étude du comportement, dans le champ de l'anthropologie évolutionniste, vous engagez une réflexion sur la contribution de la paléoanthropologie aux enjeux de notre société. Laïcité, diversité, développement durable, santé, politique, relations hommes-femmes. Actuellement, vos réflexions intéressent de plus en plus le monde économique et social et les entreprises sur les questions d'adaptation, de management, de groupe et d'innovation. Et à ce titre, vous avez créé le concept d'entreprise. Voilà, l'un de vos derniers essais, donc de Darwin à Lévi-Strauss, l'homme et la diversité en danger, est un plaidoyer pour l'avenir de l'humanité. Je vous laisse la parole, merci.
Merci Xavier, merci Cyril. Donc, d'abord, je ne suis pas un spécialiste des origines des pensées religieuses, bien que ce sujet ait été régulièrement investi par les préhistoriens, d'ailleurs, dès le commencement de la préhistoire. Ça fait à peu près 130 ans, 140 ans. Par contre, ce que je vais évoquer, ce sont les études très récentes qui appliquent les méthodologies les plus pointues que nous avons dans les méthodes qu'on appelle de la systématique, c'est-à-dire les méthodes qui permettent de classer et donner quelque chose d'ordonné et de compréhensible dans les diversités. Alors, on comprend bien qu'on puisse le faire pour les espèces. D'ailleurs, les théories de l'évolution viendront de là, non pas des fossiles. Les fossiles viendront plus tard. En fait, c'est essayer de comprendre quelles sont les relations de ressemblance et de différence entre les espèces, bien sûr, mais aujourd'hui, on le fait aussi avec les langues. D'ailleurs, ça a commencé d'abord avec la linguistique comparée au milieu du 19e siècle. Et depuis quelques temps, il y a eu tout un travail, d'ailleurs, qui avait été amorcé par Claude Lévi-Strauss sur la compréhension de, justement, ces ressemblances et ces différences dans les grands systèmes de croyances ou de pensée du monde. Et moi, je n'aborderai pas les religions, on va voir un petit peu ce qui se passe avant et autour. Donc, première chose, quelles sont les définitions qu'on peut avoir? Alors, c'est intéressant de constater que depuis quelques années, on a dans le monde de la presse des revues formidables, hein, Le Monde des Religions, on a eu aussi Philosophie Magazine, la revue Espèce. Il y a dans la crise générale de la presse écrite actuellement quand même l'émergence de revues de très très grande qualité. D'ailleurs, c'est tout à fait étonnant qu'elles marchent aussi bien et qui correspondent bien certainement à de grandes attentes de la part d'électorats et surtout de nos sociétés qui connaissent des changements extrêmement rapides à l'heure actuelle. Alors, voici quelques définition. Frédéric Lenoir, qui, vous savez, a dirigé longtemps Le Monde des Religions, il pense que, lui, la croyance, la religion, c'est la croyance en des entités invisibles et qui s'accompagnent de pratiques et de célébrations collectives. Donc il y a tout de suite, d'emblée, des aspects liés à la métaphysique et des aspects liés, évidemment, aux sociétés et aux rassemblements et des célébrations collectives. Alors, pour certains grands anciens, bon, Cicéron, Thomas d'Aquin, c'est plus récent bien sûr, il y a un fait qui est religieux, comme dira évidemment, on parle de fait religieux aujourd'hui, depuis qu'on a ce livre de M. Régis Debray, mais il y a un constat, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune culture dans laquelle il n'y a pas de religion. Alors ça commence évidemment dans le cadre du bassin méditerranéen et de ce qu'il y a autour, et après ça, évidemment, avec l'ouverture après la Renaissance vers l'ethnologie comparée, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas une seule culture sur cette terre qui ne possède pas, à minima, si ce n'est une religion, mais en tout cas, des récits sur les origines, sur lesquels, évidemment, s'installe donc une rationalité, comme l'a bien dit Lévi-Strauss, et évidemment des lois de vie sociale, des valeurs de transmission et de célébration, et ceci est universel. Alors là, typiquement, alors c'est pas la peine de noter ce genre de choses, mais il y a eu un livre qui a eu un bon succès il y a quelques années, une petite dizaine d'années, par M. Pascal Boyer, un Français qui travaille aux États-Unis, et il a sorti un livre typiquement dans la démarche de l'épistémologie anglo-saxonne, où il a tenté d'expliquer d'où venait la religion. Donc ce livre s'appelle « Et l'homme créa les dieux » et derrière un sous-titre « Ou comment expliquer la religion ». Et là, il va donner une liste d'un ensemble d'éléments qui disent « Voilà, bon, c'est expliquer le monde et les phénomènes mystérieux, les expériences, les rêves, les origines des choses, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance ?» Alors aussi, évidemment, réconforter, soulager l'angoisse, l'inconfort du monde, enfin voilà, tout ça, évidemment, on retrouve dans la religion. C'est aussi assurer et la transmission et la cohésion sociale, ça fonde la morale. On a eu quelques discussions il y a quelques années dans notre société autour de cela. Est-ce que la morale est forcément liée aux grandes religions, ou est-ce qu'il peut y en avoir en dehors des religions, et puis aussi, là c'est plus évidemment la tradition qu'on retrouvera avec Freud, les superstitions, les croyances irraisonnées, etc. Voilà. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il est incontestable que les religions touchent à tous ces éléments, tous ces aspects, mais la vraie question, est-ce que les religions sont apparues pour, évidemment, répondre à l'une de ces questions? Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans les théories de l'évolution moderne. Il faut bien comprendre que dans une perspective darwinienne, les choses n'apparaissent pas parce qu'on en a besoin et surtout parce qu'à une époque donnée, une espèce peut avoir une adaptation, et de croire que parce qu'une adaptation est observée à un moment donné, de penser naïvement qu'elle est apparue pour cela. C'est une tautologie qui, effectivement, ne fonctionne pas dans les sciences de l'évolution. Ce qui fait que le livre est extrêmement pénible à lire, parce qu'il passe son temps à affirmer une chose et à le démonter, donc ça ne fait pas vraiment avancer cette question. Alors, il est intéressant de voir des auteurs comme Montaigne dans les essais. Il dit ceci à propos de la religion. Il dit « Tout cela, c'est un signe très évident que nous ne recevons notre religion qu'à notre façon et par nos mains, et non autrement que comme les autres religions se reçoivent. » Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'effectivement, si on est dans un pays catholique, on a des chances d'être catholique. Si on est dans un pays où il y a du judaïsme, on a des chances d'être judaïque. Voilà, donc Montaigne a très bien vu qu'effectivement, un enfant qui naît dans une société, évidemment, va être très immédiatement imprégné par une langue, un récit des origines et l'ensemble des pratiques, qu'ils soient de religion ou de d'autres types de croyances, comme on le verra rapidement. Et donc, en effet, c'est ce que dira Darwin. Darwin, il disait, voilà une expression de Darwin, je suis obligé de parler de Darwin dans cette affaire, voici un texte de Darwin, où il dit effectivement que si dans une société, il y a un ensemble de valeurs qui sont confirmées, répétées, enseignées, transmises de génération en génération, il dit que effectivement, ça peut devenir comme un instinct, ça ne veut pas dire qu'il y a un gène, évidemment, c'est complètement idiot, hein, mais effectivement que les choses semblent naturellement être celles-ci, puisque tout autour de nous, le contexte est comme cela, et aujourd'hui les sciences cognitives nous montrent qu'effectivement, ça fonctionne bien comme cela. Alors pourquoi je vous parle de Darwin? Parce qu'effectivement, il y a une énorme confusion autour de Darwin et de la religion. Je vous explique dans un instant ce qu'est le MoMA. Donc, aujourd'hui, voici trois protagonistes, dont un nous a quittés il y a 12 ans maintenant, M. Stephen Jay Gould. Et vous savez que nous avons été violemment percutés dans les années 1980 par le retour des fondamentalismes religieux, qui ne viennent pas du judaïsme, qui ne viennent pas du monde de l'islam, qui viennent des fondamentalistes américains. Soyons très clairs, il faut remettre les choses dans l'ordre. Hein. Et là, dans les années 80, à la faveur de l'élection de M. Reagan, on a été très surpris parce qu'on s'est aperçu qu'en définitive, les groupes fondamentalistes étaient extrêmement bien organisés, financés, ils s'étaient introduits dans les écoles, dans les groupes de décision pour les programmes, et dès qu'ils ont eu l'occasion de se manifester, ils ont effectivement imposé à la société tout cela, hein, parce qu'évidemment le Parti républicain à l'époque, et ils sont d'ailleurs très embêtés avec ça, avec le Tea Party encore aujourd'hui, ça se trouve, monsieur Obama vont subir les conséquences aujourd'hui même, comme vous le savez, avec l'élection. Mais il y a eu donc un retour que même la société américaine n'attendait pas, alors qu'évidemment, il y avait toute une partie de ces sociétés qui étaient déjà bien installées, mais qui ne se manifestaient pas d'un point de vue politique. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un des problèmes du Parti républicain que nous avons aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a eu un ensemble de livres. Alors moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Lucie, l'obscurantisme », qui est sorti en 2007, et qui est sorti en même temps que le livre de mon ami Jacques Arnoux. Donc Jacques Arnoux était, parce que maintenant il a quitté sa vocation, mais il était très longtemps un prêtre dominicain, et en 2007, il a sorti un livre qui s'appelle Darwin, Dieu versus Darwin, qui est un excellent livre. Alors, il a été très surpris, parce qu'il le raconte, il avait été aux États-Unis, et il avait été évidemment tout à fait effaré de ce retour des fondamentalismes religieux. Il écrit ce livre, et un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un monsieur, qui dit, écoutez, je crois que vous ne le savez pas, votre livre est intéressant, mais il y a des créationnistes en France, et vous l'ignoriez. Effectivement, on a des créationnistes en France, mais en fait, ce sont des gens qui restaient, évidemment, dans leur milieu, qui ne se manifestaient pas, et d'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui encore, ils maintiennent un profil discret, ce qui est tout à fait à leur honneur, d'un point de vue de respect de la laïcité. Mais donc, du coup, on s'est aperçu que c'était quand même beaucoup plus diffusé qu'on l'imaginait, et il y a eu une série de livres que vous voyez ici, donc il y a eu d'abord Freud évidemment, mais surtout Stephen Jay Gould et Dieu dit que Darwin soit, un très très beau livre d'ailleurs, où c'est là qu'il explique le principe de MoMA. Le principe de MoMA, ça veut dire l'indépendance des magistères, hein. L'idée qu'effectivement il est tout à fait inutile de vouloir opposer les croyances religieuses et leur épistémologie propre et la raison qui s'y attache, bien sûr, hein, et derrière cela, la démarche scientifique et ou les autres démarches philosophiques. Alors ça, c'est un beau principe de MoMA, c'est-à-dire l'indépendance des grands magistères du questionnement du monde. Donc Stephen Jay Gould est un monsieur remarquable. Cependant, effectivement, après ce qu'on a lu rapidement précédemment, il est très clair que même si vous êtes ou agnostique ou athée, que vous le vouliez ou non, nos références culturelles sont les mêmes, parce qu'évidemment, on aura des expressions « oh mon Dieu » ou alors des références à la Genèse, etc. Qu'on s'en croyant ou pas, c'est un fait culturel qui déborde évidemment le strict cercle des gens qui sont croyants, et quelle que soit donc la force, en tout cas l'expression radicale ou pas, de leur croyance, de la laïcité ou l'exclusion, comme dans les fondamentalismes. Alors, il y a quelqu'un qui m'agace dans l'autre sens, c'est Richard Dawkins, qui est un immense scientifique que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup ce personnage, qui est au milieu à droite. Et lui, il a écrit God Delusions. Ce livre a eu énormément de succès, il a été publié à plusieurs millions d'exemplaires. Et lui, il considère qu'effectivement, qu'on peut étudier la question de Dieu. Donc, il n'y a aucun problème en tant que scientifique d'étudier le fait religieux et ses origines, comme on va le voir. Par contre, de se lancer dans une démarche scientifique qui consisterait à prouver l'existence ou non de Dieu, nous sommes de très nombreux scientifiques à dire que ceci n'appartient pas au domaine des sciences. Parce que la science est une démarche matérialiste avec ses vraies problématiques qui sont universelles, on est bien d'accord. Mais très clairement, ce n'est pas de dire qu'on n'a pas le droit d'y toucher, mais notre méthodologie scientifique ne permet pas de toucher à cette question. C'est aussi simple que cela. Donc, on peut avoir évidemment plusieurs casquettes, si je peux me permettre cette expression, mais en l'occurrence, on voit bien qu'il y a beaucoup de confusion dans cette affaire-là. Et en l'occurrence, moi, je vais vous amener sur le terrain, évidemment, des origines de cela. Alors, quand même, un autre mot sur Darwin. On verra tout à l'heure la grande tradition qui est plus profonde que les grandes religions, c'est-à-dire ontologiques, qu'on a à travers les grandes mythologies, qu'on a à travers les grandes philosophies, que l'on a aussi dans les grandes religions, mais aussi en sciences, parce qu'évidemment, ces ontologies sont des éléments moléculaires, pourrais-je dire, de nos représentations du monde, donc qu'on va retrouver dans tous ces grands domaines de l'interrogation du monde, eh bien, très clairement, Darwin va marquer une grande rupture qui est moins du fait de la religion qu'en fait une tradition dualiste très puissante qui remonte aux Grecs et pas certainement avant, à Grèce classique, c'est le dualisme, c'est-à-dire l'opposition homme-nature, culture-nature, homme-animal, pardonnez-moi, et aussi instinct et acquis. Pardon. Alors ça, ce ne sont pas des concepts qui ont été véhiculés par des grandes religions. En fait, elles les ont accaparés d'une manière plus ou moins puissante. Pardon. Et derrière cela, Darwin, lui, est un vrai scientifique qui nous donne une théorie purement matérialiste, parce que c'est la science de l'évolution, mais il va s'attaquer en 1871 à la question de l'origine de nos qualités mentales supérieures et donc à la psychologie, qu'on appellera psychologie évolutionniste plus tard, bon, là c'est très récent. Et en gros, Darwin nous propose une théorie complètement moniste, c'est-à-dire que lui, il dit que l'évolution à la fois du corps, notre matérialité, et de l'âme, notre spiritualité, eh bien, c'est le même processus. Et en fait, l'opposition qu'on a principalement envers Darwin, souvent, n'est pas de l'ordre de la religion face aux théories de l'évolution, et de l'ordre, en fait, de pensée plus fondamentale que l'on va retrouver en philosophie. Par exemple, alors je ne connais pas bien le judaïsme, je ne connais encore pas très bien l'islam, mais je connais un peu mieux la tradition chrétienne, et en l'occurrence, on voit bien que même dans le cas de la tradition chrétienne, ce dualisme du rapport de l'homme à l'animal est très, très différent à différentes époques, ne serait-ce que le pape François aujourd'hui, ou Thomas d'Aquin, ou... Donc on voit bien que de vouloir dire que ou c'est la religion ou la science ou la philosophie, on s'aperçoit qu'on a en fait des éléments de pensée qui sont plus fondamentaux, qui en fait sont plus ou moins appréhendés dans ces grands modes d'interrogation du monde, et avec une confusion d'ailleurs qui nous vient des fondamentalistes. Les fondamentalistes nous ont tendu un piège, vouloir opposer la science et la religion. Et en fait, soyons très clairs, ce n'est pas de paranoïa de Pascal Pic, c'est très clair, on s'aperçoit que les fondamentalistes ont un projet tout à fait théocratique, contre la laïcité. Donc ils sont passés par la théorie de l'évolution, mais en fait ce n'est pas la théorie de l'évolution qui les intéresse, ils ont pu passer par la relativité, sauf que c'est un peu plus compliqué, et que l'évolution est assez mal comprise. Donc attention aux pièges tendus par les fondamentalistes qui veulent opposer dans leur combat contre la laïcité les sciences et les religions. Si on tombe dans ce piège, évidemment, on ne va pas s'en sortir et ce sera tout à leur bénéfice. Alors, après Darwin, quand Darwin publie ses travaux, qui sont d'ailleurs très mal compris, je vous le dis tout de suite, hein, on a mis un siècle à comprendre Darwin, et surtout on a mis un siècle et demi à comprendre son apport fondamental sur l'anthropologie qu'on appelle évolutionniste. Eh bien, à cette époque-là, évidemment, vont apparaître de grands questionnements sur le rapport aux autres cultures. Alors, l'ethnologie et l'ethnographie vont commencer à la fin du XIXe siècle, mais il y avait déjà eu dans l'histoire, notamment de l'Occident, bien sûr, de grandes réflexions autour, effectivement, du rapport à l'altérité, à ces autres cultures. La controverse Valladolid, hein, comme par exemple, c'est intéressant, puisque en effet, on connaît les désastres causés par une partie des conquistadors vis-à-vis de ces peuples, et d'emblée, il y avait un vrai controverse hein, qui disait, est-ce qu'ils sont aussi les enfants du Créateur, et auquel cas, il faut leur apporter donc, la foi et puis la conversion, le très beau film The Mission, d'ailleurs, hein, si vous ne l'avez pas vu, The Mission est un film absolument merveilleux à cet égard. Alors d'autres qui disaient, de toute façon, ce sont des sauvages et on en fait ce que l'on veut, on les découpe sur place. Et donc cette controverse absolument magnifique. Le pape Jules III, d'ailleurs, avait dit qu'il est tout à fait illégitime de prendre les terres aux Indiens et qu'il faut leur rendre. Donc je veux dire que là aussi, il y a eu des prises de position très fortes. Malheureusement, c'est la barbarie, mais qui vient de l'Occident, qui a dominé dans cette affaire. Et il y a eu, effectivement, même de la part... des domaines de la pensée politique et philosophique de progrès, l'idée de progrès qui émerge fortement au XIXe siècle, et là dans sa version donc non religieuse, a été extrêmement dommageable et extrêmement péjoratif vis-à-vis des autres peuples, puisqu'effectivement, à la fin du XIXe siècle, vont naître à la fois les trois piliers des sciences humaines, c'est-à-dire la préhistoire, les cultures du passé, l'ethnologie, donc les autres cultures de notre présent, et l'anthropologie physique, qu'on appelle maintenant aussi génétique, qui décrit les différences donc, entre les peuples, donc à travers leurs aspects physiques, et évidemment aujourd'hui avec les molécules et les gènes. Et à cette époque-là, donc, va émerger le primitif. C'est ça qui est intéressant. L'idée du primitif ou du sauvage, c'est une idée qui est récente, qui est une fille de la modernité. Dans la Bible, Noé avec Shem, Japheth et Sem, on a déjà les trois entités qu'on appellera les trois grandes races plus tard, mais le terme n'est plus de mode. Comme vous le savez, c'est devenu tabou. Mais en tout cas, c'était comme ça qu'on pensait à l'époque. Donc, en fait, la modernité, l'anthropologie moderne, va, comme on la voit chez Auguste Comte, comme on le voit aussi chez les fondateurs de l'ethnologie, hein, qui diront qu'il y a trois âges de l'humanité, la sauvagerie, la barbarie et donc évidemment la civilisation. Et du coup, on retrouve le schéma d'Aristote aussi avec les barbares au-delà des murs. Et en fait, tout ceci a été le fardeau de la modernité qui a vu les autres peuples comme cela, c'est-à-dire des peuples qui manifestement n'ont pas pris le train du progrès et de l'évolution humaine. Et bien, ou ils viennent avec nous, ou tant pis pour eux, ils disparaîtront. Donc c'était conçu comme une loi générale du progrès, et puis tant pis pour ceux qui n'y seront pas, donc les trois âges de l'humanité. Donc, et le primitif, donc, est une invention du 19e siècle, qui est un fardeau de l'évolution, mais mal compris, qu'on appelle l'évolutionnisme culturel, qui évidemment mettait l'Occident au sommet, et puis les autres, on les rangeait comme ça, de manière dégradante et dégradée, jusqu'aux singes, comme ces aborigènes que vous voyez là. Donc voilà, le racisme construit, lié au progrès, est en fait quelque chose qui est très récent dans l'histoire de l'humanité. Alors, maintenant, comment essayer de retrouver dans l'état actuel des connaissances ce que nous disent les sciences actuelles, donc la paléo-anthropologie. Aujourd'hui, comme vous le savez, nos origines sont africaines. Et quand je dis nos origines, c'est l'origine d'abord de la lignée humaine, hein, c'est-à-dire celle qui se sépare de celle des chimpanzés. Donc ça remonte à 6-7 millions d'années dans l'état actuel des connaissances. Nous, on va s'intéresser plus au genre homo, donc le genre humain, qui va apparaître donc, là aussi en Afrique, il y a à peu près 2 millions d'années. On n'est pas tous d'accord, on va dire entre 2 millions d'années et 2,5 millions d'années. Et là, ça va être un phénomène étonnant, puisque le genre homo, qui est issu des australopithèques au sens large, hein, comme Lucie, et le genre homo, tout de suite, va avoir une particularité qu'on ne trouve pas chez les autres espèces, notamment chez les autres grands singes, aussi intelligents soient-ils comme les chimpanzés. C'est-à-dire que le genre homo va très rapidement être un constructeur de monde. Un grand éthologue qui s'appelle Jacob von Eskühl, qui aurait dû avoir le prix Nobel aussi en 1973 avec Karl Lorenz, Karl von Fritz et Nico Tinbergen, hein, donc les fondateurs de l'éthologie, donc l'étude du comportement. Et je rappelle que l'éthologie, ça vient d'éthos, les comportements, et c'est aussi la racine d'éthique, donc les règles de la vie en commune. Hein. Eh bien, on sait que chez toutes les espèces, bien sûr, notamment les chimpanzés, il y a des vies sociales extrêmement complexes qu'on croyait n'exister que chez les hommes. Mais il y a une particularité dans le genre homo, c'est qu'on rentre dans le domaine du discursif, c'est-à-dire le langage. Fait que, par exemple, chez les chimpanzés, il n'y a pas d'inceste, c'est régulé. Il y a des règles assez claires chez les chimpanzés et toutes les autres espèces, donc sur ces questions-là. Mais le tabou de l'inceste, ça rentre dans le domaine du discursif, de la règle, de l'énonciation. Donc le langage donc, va installer, avec le langage qui est en fait un mode d'expression symbolique, bien sûr, va installer une médiation symbolique avec le monde qui nous entoure. Ce qui nous surprend aujourd'hui, c'est que ceci est beaucoup plus ancien qu'on l'imaginait. Longtemps, on avait cru que c'était que notre espèce Homo sapiens, sachant que les hommes de Néandertal ou les Homo erectus étaient considérés comme des brutes qui remplaçaient nos aborigènes de tout à l'heure. Donc ça ne fait pas longtemps qu'on regarde avec plus d'intelligence l'intelligence de nos prédécesseurs. Et là, vous avez un ensemble de changements qui sont listés ici, qui sont absolument considérables. Cet outil que vous voyez en haut à gauche, qu'on appelle un biface, la manière de le construire, c'est exactement la façon dont on construit une phrase. C'est-à-dire, faire un biface, c'est un concept dans lequel vous avez des éléments d'articulation cognitif qui sont exactement le même. Quand je fais un outil, quand je vois quelqu'un faire un outil, ou quand je fais moi-même un outil, ce sont les mêmes régions cérébrales qui s'illuminent, donc qui permettent évidemment d'avoir des modes d'action extrêmement souples sur le monde ou sur la manière de dire le monde ou de comprendre le monde. Et ce biface-là, bien sûr, on a longtemps analysé cela comme un outil efficace avec une petite fonction pointue. Écoutez, franchement, vous prenez, comme c'est indiqué en bas à gauche, un épieu que vous taillez, vous savez faire, et vous le mettez au feu de bois, c'est tout aussi efficace. Donc là, vous avez autour de cela une stratégie extrêmement complexe de collecte de matière, d'esthétique, d'émotion, de savoir-faire, de transmission, de tradition. Donc cet outil s'inscrit dans une cosmogonie. Donc derrière cela, on sait qu'ils avaient des langages, on a les aspects anatomiques, et le feu est là, et le feu évidemment, c'est une maîtrise de l'environnement, c'est l'ouverture sur la nuit, c'est une autre forme de collectivité. Donc en fait, ce qui fait l'humain, c'est son aptitude à se construire des mondes, comme disait von Eskühl, des mondes qu'il fabrique par les outils, les abris qui vont les protéger, mais aussi, très certainement, dès cette époque-là, un langage qui va édicter des règles et peut-être des récits des origines, en tout cas, des interrogations sur ce qu'on appelle la condition humaine. Alors, on n'a pas ces récits, mais très certainement, c'est beaucoup plus ancien qu'on l'imaginait, parce que, par exemple, tout ce qui est lié aux parures, tout ce qui est lié à des colorants, remonte à plus de 500 000 ans pour les traces que l'on a, et c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on a des parures, de la cosmétique. Or, cosmétique aujourd'hui, vous savez, sur les plateaux télé, c'est cosmétique, ça veut dire mon coco, pardonnez-moi cette expression, ton propos est superficiel. Pas du tout. Cosmétique, c'est la même étymologie que cosmos. C'est-à-dire qu'on change ses apparences en fonction de l'image qu'on veut donner de soi ou que la société nous impose, en fonction de ses codes et des différences qu'on veut imprimer. L'homme est la seule espèce qui se modifie dans son apparence, dans le rapport aux autres, à travers les habits, donc il y a toute une prédation sur l'environnement, à travers les parures, à travers les coquillages, à travers les plumes, à travers les fourrures, etc. Donc la cosmétique est un enjeu considérable du rapport de l'homme au cosmos et évidemment à ce qui l'entoure. Donc tout ceci est bien plus important qu'on imagine. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir, et ça fait que quelques années, et ça se consolide de plus en plus. On a pensé longtemps, et vous l'avez appris comme ça d'ailleurs, que l'évolution de la lignée humaine, évidemment, ça partait des chimpanzés qui ne sont pas du tout nos ancêtres, je vous le dis tout de suite, eux aussi ont évolué, mais nous partageons un ancêtre commun, ce qui n'est pas la même chose. Donc ils ont évolué eux aussi. Et la lignée humaine a été conçue longtemps, en effet, comme une lignée qui se perfectionne avec une vision de progrès et que nous serions, nous les Homo sapiens, l'aboutissement évidemment de ce processus, alors qui, chez les scientifiques, n'est pas finalisé, mais qui peut être interprété comme Teilhard de Chardin ou d'autres, comme évidemment une loi qui aboutit vers l'homme. Alors ça, vous pouvez le croire, mais la science ne le dit pas, ce qui n'empêche pas que vous pouvez le croire. Donc, mais en tout cas, tant que ça ne touche pas aux données qui sont présentées par une collectivité d'hommes et de femmes du monde entier. Donc on en est là, et quand je suis rentré dans ce métier, j'étais physicien au départ, j'ai eu le bonheur de travailler avec un monsieur qui s'appelle Bernard van der Mersch, qui était un spécialiste de Néandertal. Sur la photo du bas à gauche, vous avez Néandertal à gauche et l'homme de Cro-Magnon à droite. Et il avait repris des travaux donc en Israël. En fait, en Israël, on avait des sites absolument superbes, et on en a découvert de plus en plus. Mais là, il trouvait quelque chose qui était quand même étonnant et qu'on n'avait pas en Europe. Parce qu'en Europe, où commence la préhistoire, on a systématiquement l'homme de Cro-Magnon, qui est en bas à droite, c'est vous et moi, qui était au-dessus, dans les grottes, de l'homme de Néandertal. Évidemment, on avait avili, et ça continue malheureusement. Mais là, au Proche-Orient, il y a quelque chose autour du Mont Carmel, à Kavzeh, à Amoud et à Skoul. Là, autour de 80 000 ans, 100 000 ans, on a des hommes de Cro-Magnon, qu'on appelle Proto-Cro-Magnon pour faire simple, et des hommes de Néandertal, sauf que ils ont l'air d'être dans le même contexte archéologique. Et là, l'idée commence à émerger que peut-être que ces hommes sont contemporains. Donc au début des années 1980, on commence à se dire, peut-être qu'on a deux types d'hommes, avec des cerveaux plus gros que nous d'ailleurs, qui enterrent leurs morts, et qui sont au même endroit, là qu'en plus dans ce carrefour obligé de l'Ancien Monde, qui est donc le Proche-Orient. Alors que fait-on? Comme la grande tradition de la pensée occidentale, donc quand je dis occidentale, c'est le bassin méditerranéen, bien sûr, hein, c'est très clair, et qu'il n'y a qu'un seul homme face à son créateur, plus ou moins consciemment, on fait de l'homme de Néandertal une sous-espèce de notre espèce. Si on a du mal à concevoir qu'il y ait deux intelligences, deux humanités qui enterrent leur mort et qui soient deux espèces différentes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se reproduire avec eux. 12 ans plus tard, avec mon ami Yann Tattersall de New York, on commence à dire que certainement Néandertal est une autre espèce, et aujourd'hui c'est largement confirmé par la génétique et les données actuelles, Néandertal est une autre espèce. La vraie question qui est intéressante, est-ce que c'est une même humanité? Ça c'est un point de vue tout à fait personnel. Et je ne suis pas seul à le donner, bien sûr. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons connu, jusqu'il y a encore très peu de temps, une humanité qui était composée de plusieurs espèces contemporaines. Alors Néandertal et Cro-Magnon, on les connaît assez bien maintenant, mais on sait qu'on a découvert sur le centre de... récemment, depuis 3 ans seulement, vous avez le schéma en jaune au milieu ici, les hommes et les femmes de Denisova. Nos collègues russes ont trouvé une autre lignée humaine qui a été en fait décelée sur une phalange. On ne sait pas comment ils étaient, mais en tout cas, par l'ADN mitochondrial, donc les mitochondries étant des petits organismes dans vos cellules qui se chargent de l'énergie et du métabolisme de vos cellules, cet ADN est indépendant, il ne se transmet que de mère à enfant, donc on peut reconstituer les lignées, et on a une lignée qui est indépendante, qui était sur l'Asie centrale. Et une étude qui est sortie il y a trois mois, montre qu'on sait maintenant que, alors ici, il n'y a pas de personnes d'origine africaine, tous les noms africains ont 2 à 4% d'ADN de Néandertal, et que les populations qui sont le plus à l'est aujourd'hui, et même jusqu'en Océanie, ont de l'ADN de Denisova. C'est-à-dire, alors vous me dire, attendez, normalement, deux espèces, ne peuvent pas se reproduire entre elles. Et bien, on est en train de découvrir, en fait, que quand deux espèces se sont séparées récemment, elles peuvent transmettre des adaptations récentes. Donc la peau claire, et avec les yeux clairs, etc., en fait, nous l'avons captée à Néandertal en faisant l'amour avec eux, alors qu'eux l'avaient acquis au fil de plusieurs centaines de milliers d'années. Et on sait que les Tibétains, notamment les Sherpas, qui ont une pêche extraordinaire pour monter les charges comme ça avec les alpinistes sur le toit du monde, eh bien, eux, ils ont capté les bases génétiques de cette adaptation aux hommes et aux femmes de Denisova. Ça vient de sortir, si je peux me permettre cette expression. Donc, voilà ce qui est intéressant. Alors, où je veux en venir? C'est qu'on s'aperçoit que même si on a des espèces qui se sont séparées depuis 500 000 ans, tous et toutes enterrent leur mort, donc elles sont dans la même humanité, avec des différences évidemment, mais on s'aperçoit qu'en fait il y a des gènes qui sont transférés, certainement des éléments de langue et aussi des éléments de croyance, comme on va le voir. Donc en fait il faut, et ça c'est tout à fait nouveau, il y a 40 000 ans, ce qui est rien du tout à l'échelle de l'humanité, enfin de l'histoire de l'humanité selon la paléanthropologie bien sûr, qu'il y avait une humanité partagée par plusieurs types d'hommes qui échangeaient, qui commerçaient, ils n'échangeaient que des gènes, évidemment, ils se sont fait un petit peu la guerre, les hommes étant ce qu'ils sont. Depuis quand a-t-on les plus anciennes traces de sépulture? Eh bien, les plus anciennes traces que l'on ait, c'est-à-dire de préoccupations très claires autour des défunts, avec forcément une interrogation, que se passe-t-il après la mort? Eh bien, au risque de vous surprendre, c'est chez l'homme de Néandertal. En tout cas, les pré-néandertaliens, c'est le site d'Atapuerca, qui est au nord de l'Espagne, où là, un site daté de 400 000 ans, de 400 000 ans, on a la première chapelle ardente, c'est-à-dire que là, on a découvert ce qui est reconstitué en bas à droite, les restes de 32 individus, hommes, femmes, enfants, qui étaient en fait ensevelis, en tout cas déposés au même endroit. Ce n'est pas une fosse commune, hein, c'est vraiment pour ça que je préfère la chapelle ardente, au milieu desquels on trouve cet outil absolument magnifique qui s'appelle, que nos collègues espagnols ont surnommé Excalibur. Et en fait, c'est le seul outil qu'on connaisse comme cela. Donc, il y avait une véritable offrande. Et donc là, il y a 400 000 ans, ce n'est pas encore l'homme de Néandertal, mais nous sommes en Europe. Et là, effectivement, il y avait une véritable activité autour des défunts et avec des offrandes que vous voyez ici. Et je peux vous dire que ces corps, ils ne sont pas tombés par hasard. Il fallait les amener. Hein. Je veux dire, c'est 200 mètres dans les boyaux, quasiment à quatre pattes. Donc, il y avait vraiment une véritable activité autour des morts et d'une réflexion, d'une pensée autour des morts. Donc évidemment, c'est pareil pour nous, les Homo sapiens, et pardon, c'est tellement simple, nous les scientifiques, nous sommes des gens simples, Néandertal et Cro-Magnon, c'est-à-dire vous et moi, les Homo sapiens, nous nous sommes séparés vers 500 000 ans. Si vous trouvez chez Néandertal des éléments archéologiques de préoccupation autour de la mort, et chez nous, les Homo sapiens, nous, c'est le principe de parcimonie, ça vient de l'ancêtre. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça vient de l'ancêtre, mais nous, en tout cas, c'est le principe de parcimonie. Donc ça veut dire que se préoccuper des morts, etc., ben, ça remonte à ce que je disais tout à l'heure, aux plus anciennes traces que l'on a en archéologie autour des parures, de l'usage de colorants, des manifestations du symbolique. Et donc très certainement, cette préoccupation autour des morts est beaucoup plus ancienne, remonterait à 500 000 ans. Donc à 500 000 ans, vous voyez, donc c'est quand même assez extraordinaire. Donc voici quelques exemples de tombes de Néandertal, et notamment en bas à droite, ben, la sépulture de Skoul, qui est en Israël, où là, effectivement, nous avons même des nécropoles, hein, en Syrie, à Shanidar, donc ce n'est pas très facile pour aller fouiller en ce moment, comme vous le savez. Donc Shanidar en Irak, on a des sites en Syrie, on a même des petites nécropoles. Hein. Et donc, notamment avec un élément important, à Shanidar, donc qui est en Irak, nos collègues américains ont trouvé donc une petite nécropole, et là, c'est intéressant, il y a le squelette d'un individu qui est mort à 40 ans, ça on peut le reconstituer, c'est facile hein, sur le squelette, à 40 ans, et il était handicapé de naissance. Donc cet individu ne pouvait pas se nourrir tout seul. Donc on a des sociétés dans lesquelles il y avait des solidarités, dans lesquelles il y avait des rapports d'empathie et de soutien à des handicapés de naissance. Vous voyez, tout ça n'est pas tout à fait récent. Voilà, donc c'est pas, on n'est pas là en train de surévaluer les faits, hein, soyons très clairs, hein, c'est vraiment des faits parfaitement avérés. Et voici donc en Israël, Amoud Skoul Kavzeid, vous voyez donc ses parures, ça c'est l'homme de menton en bas à droite, Skoul à nouveau en haut à gauche, et donc voilà, ça c'est des squelettes. Donc nous sommes contemporains, Néandertal est l'homme du Nord, nous sommes les hommes du Sud à cette époque-là, et ceci existe depuis longtemps. Et puis il va se passer quelque chose vers 40 000 ans. Notre espèce Homo sapiens, en fait, émerge aussi en Afrique. Alors, je reprends le schéma, attendez, excusez-moi, du coup, Je me suis un peu planté, pardonnez-moi. Je vais vous présenter quelque chose. Ben non, on a vu le schéma, excusez-moi. Donc j'en ai rien à dire, on ne devrait jamais faire ça. Donc.
Reste 10 minutes, hein, Pascal.
Ok. Donc voici cette ombre, et en fait, on s'aperçoit que vers 40 000 ans, alors que notre espèce vient d'Afrique, donc les fossiles nous disent que ça remonte à 300 000 ans. Donc j'insiste, hein, il y avait déjà des parures, il y avait déjà une symbolique, il y avait déjà de la préoccupation autour des morts, mais là, vers 40 000 ans, la version moderne de l'homme d'aujourd'hui, donc Homo sapiens moderne, va complètement exploser d'un point de vue symbolique. Donc on a une explosion symbolique, on sait que les plus anciennes traces sont en Afrique, notamment en Afrique du Sud, on a cru longtemps que c'était en Europe, et là on voit émerger donc ici la grotte Chevet en haut à gauche, et là la fameuse scène du puits de Lascaux. Alors, regardez bien cette scène, je vais y revenir dans un instant, parce qu'il semblerait que tout ça est plus ancien. Et en fait, à cette époque-là, on a très très peu de représentations anthropomorphes. Voilà l'exception de Hohenstatel, donc, qui a été trouvée dans le Jura Swabe, donc en Allemagne, et du côté de la Tchéquie. Donc en fait, on a très très peu de représentations humaines pendant la préhistoire. Voici une des rares représentations anthropomorphes avec un corps d'homme et une tête de lion. Les plus anciennes que l'on connaît, évidemment, ce sont essentiellement des femmes, donc les fameux Vénus stéatopiges, hein, c'est-à-dire que sont évidemment très potelés, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ça, on sait que ça vient de Russie maintenant, mais ça va se diffuser sur l'ensemble de l'Europe glaciaire et de l'Asie glaciaire. Donc en fait, les visages sont très peu représentés. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, il y a 40 000 ans, enfin il y a 100 000 ans, hein, mais vraiment ça explose vers 40 000 ans, vers 100 000 ans, on le sait maintenant, avec la génétique, la linguistique, et maintenant les mythes, comme on va le voir, on sait que les populations de l'homme moderne, depuis l'Afrique orientale, vont traverser évidemment la péninsule arabique, vont aller vers le nord, vers le Proche-Orient, et donc on va avoir, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, et même de la vie, une expansion extrêmement rapide d'une espèce, cette fois-ci sur l'ensemble de la Terre. Donc ça c'est notre espèce Homo sapiens, qui va se répandre, comme j'aime à dire, comme une traînée d'ocre, et en fait, on le sait maintenant, on va se retrouver en Australie. Il n'y a jamais eu de singes en Australie. Donc il y avait des kangourous, par contre, il y a des marsupiaux. On va se retrouver en Australie avant d'être en Europe. Comment se fait-il que nous soyons d'abord en Australie avant d'être en Europe? Alors que le chemin est plus court pour aller en Europe. Ben parce qu'au nord, il y a Néandertal. Il y a Néandertal, et c'est une vraie civilisation qui s'étend de l'Atlantique par de la l'Oural. Là, l'expression n'est pas galvaudée. Et Néandertal est une grande civilisation. Et il va falloir 10 000 ans pour que nous, les hommes de Cro-Magnon, donc les Homo sapiens européens, finissent par s'installer chez Néandertal, avec lesquels on va échanger des gènes, des cultures, des outils, on le sait maintenant. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'auparavant, depuis la sortie d'Afrique, plusieurs lignées humaines, on l'a vu, vont donner Néandertal, les Homo sapiens ou Denisova, ou même les hommes de Flores. Mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, nous allons naviguer, nous allons pratiquer la navigation tourière, et pour la première fois, une espèce, de sa propre volonté, va aller vers l'inconnu absolu, c'est-à-dire au-delà de l'horizon. L'Australie, c'est toujours 80 km de mer à traverser. Donc, vous ne voyez jamais l'Australie. Alors, des gens me disent, ouais, mais ils ont pris le chemin le plus court. Je dis, attends, à l'époque, ils n'avaient pas Google Maps. Quand vous partez vers l'inconnu, vous ne savez pas du tout si c'est le chemin le plus court ou le plus long. Vous êtes d'accord, ok? Donc, les premiers ne savaient pas. Alors, les expériences ont été faites. Hein, donc, c'est très facile, en fait, de partir de la mer de Timor et de se retrouver. Alors, l'expérience a été faite. Ils ont fait un grand radeau. Ils se sont retrouvés à la ville de Darwin. Ça ne s'invente pas, quand même. Donc, voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Mais, donc, tout ça, c'est des choses qu'on connaît maintenant. Et il est même probable, chers amis, que nous soyons, nous, les Homo sapiens, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Avant d'être en Amérique du Nord. Alors, je peux vous dire que les Latinos, ils adorent. L'Amérique du Nord, pas du tout. Sans parler des problèmes des fondamentalistes, bien évidemment. On a des sites qui sont installés à Pedra Furada, au cœur du Mato Grosso, au cœur du Mato Grosso quand même, hein, qui remontent à 47 000 ans. Donc, nous sommes peut-être en Amérique du Sud avant d'être en Europe, mais parce que Néandertal est là. Donc, il y a quelque chose chez nous qui nous amène à aller par-delà l'horizon, par-delà, aller voir l'inconnu, que ce soit le ciel ou par-delà la terre, etc. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est un constat. Et donc, on a une explosion symbolique avec effectivement des sociétés qui deviennent de plus en plus complexes. Avec, là, vous voyez, c'est une tombe qui s'appelle la tombe de Shungir, qui date de 28 000 ans, qui a été trouvée en Ukraine dans les années 50. Et là, vous avez, en fait, ce qu'on a complètement oublié, parce que Cyril l'a rappelé, j'interviens pour le monde économique et social, sur les stratégies d'innovation. On a oublié qu'avant tout, l'esthétique, les beautés, l'émotion, l'art, la cosmétique sont les principales sources de l'innovation. On a réduit ça de manière matérialiste pour nos besoins de mieux se nourrir, de circuler plus vite. Bien sûr, ça, on l'a fait. Mais que vous ayez le biface que j'évoquais tout à l'heure, ou vous gardez le iPhone ou l'autre modèle que vous avez dans votre poche, Steve Jobs, avant tout, un concept esthétique. Hein? Donc, on oubliait ça. Donc, les motivations autour des interrogations du monde, que ce soit ici Lascaux, je veux dire, les petits points que vous voyez, ce sont des perles en ivoire de mammouth qui ont été cousues sur des vêtements. Il y a 40 000 heures de travail, là. Donc, on avait des sociétés très complexes qui investissaient, contrairement à l'idée qu'on avait de l'homme préhistorique qui avait toujours la faim au ventre et qui n'était pas capable de créer ou d'inventer. On s'aperçoit qu'effectivement, comme j'aime à dire, ces hommes avaient plus faim de symboles que de gibier. Donc, voilà, c'est important. Donc, on voit que...
C'est moins 40 000, toujours.
C'est, moins de, là, c'est 28 000, mais enfin, au cœur de la préhistoire. Ces feuilles de laurier là, qui sont en obsidienne, on n'a jamais reconstitué les techniques de taille. Donc là, évidemment, et ça circule, ces valeurs symboliques vont circuler. Il y a des échanges qui vont sur de l'Atlantique à l'Oural. On a une vraie civilisation avec des symboles, des valeurs. Les Vénus circulent dans un sens, etc. Donc voilà, on a un vrai commerce des idées, des pensées et des croyances, si je peux employer ce terme. Et voici donc effectivement une des rares représentations de visage, mais jusqu'à la fin de la préhistoire, jusqu'à il y a donc 10 000 ans, 12 000 ans par rapport à aujourd'hui, on a extrêmement peu de représentations, si ce n'est quelques femmes, mais des visages jamais, et ce personnage anthropomorphe qu'on a vu tout à l'heure, et la scène donc de Lascaux. Alors peut-on reconstituer effectivement les pensées, les religions du passé? En fait, non. C'est comme l'histoire de la langue mère, vous savez, on a parlé de ça, on a dit on a reconstitué la langue mère. En fait, ce qu'on peut reconstituer, c'est la phylogénie, donc l'histoire et l'évolution des structures des langues, mais pas des langues. C'est-à-dire, ou des éléments de pensée, des grandes religions, des grands modes de représentation du monde. Mais on ne peut pas représenter l'ensemble. Hein, c'est comme l'histoire de la pierre de Rosette. Hein, si on n'avait pas trouvé la pierre de Rosette, on sait très bien qu'on a des écritures cunéiformes, mais tant qu'on n'avait pas la traduction avec une langue connue, franchement, on savait qu'il y avait du vocabulaire, on savait qu'il y avait une langue, mais on ne savait pas du tout reconstituer ce récit si on n'avait pas eu la pierre de Rosette, qui permettait évidemment, par la traduction, de retrouver ce qu'il était. Donc on peut retrouver le vocabulaire, on peut retrouver les mots, si je peux me permettre en filant la métaphore, mais c'est exactement ça, mais on ne peut pas retrouver la sémantique, la symbolique, la grammaire ou même la prosologie. Donc vous voyez, c'est un petit peu restreint, mais au moins on avance. Et donc du coup, on a des travaux depuis quelques temps qui essaient de reconstituer cela, comme je vous le disais. Et du coup, on sort de cette histoire de l'évolutionnisme culturel qui disait qu'effectivement, bah, les sauvages étaient animistes, après sont devenus totémistes, et puis nous, évidemment, nous sommes dans les grandes civilisations, donc nous sommes le sommet de l'évolution et de l'histoire de l'humanité. Donc ce qu'on a fait, c'est transposer dans le passé, en fait, des modèles économiques des sociétés, donc les sauvages et chasseurs-collecteurs, forcément, ils sont les plus archaïques selon notre vision du progrès matérialiste, donc forcément, c'est les premières religions. Vous voyez, c'est un peu le... En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'a appris jusqu'à récemment. Et donc maintenant, on est capable de reconstituer les phylogénies, c'est-à-dire les relations de ressemblance et de divergence entre, évidemment, les gènes et l'anatomie, alors ça, on sait faire depuis longtemps, les langues, alors ça, maintenant, on le fait depuis 30 ans de manière très bien, et ce qui est très récent, ce qu'on va voir, pour les mythes, ce que, en fait, Claude Lévi-Strauss appelait les mythèmes, ou ce que M. Dawkins appelle les mêmes, c'est-à-dire en fait des éléments de récit qui peuvent se retrouver de manière plus ou moins fréquente dans les différents récits. Sachant que si un élément de récit se retrouve de manière fréquente dans un très grand nombre de cultures, ça veut dire qu'il est très ancien, et si par exemple il est très peu réparti sur deux ou trois cultures, ça veut dire qu'il est apparu récemment. C'est comme nos gènes, hein. Si des gènes sont répandus dans toute la population humaine, ça veut dire qu'il est apparu il y a très anciennement, 100 000 ans peut-être, pour prendre certains gènes. Mais par contre, que les populations qui sont très proches et qui ont divergé depuis très peu de temps, bien sûr, partagent des gènes qu'on ne trouve pas chez les autres. Donc voilà la méthodologie qu'on appelle la systématique, donc classée par rapport à cela. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en effet, il y a dans le monde, alors ce n'est pas des religions, mais il y a des éléments, et c'est des travaux de Philippe Descola du Collège de France. Là, c'est un très beau livre qu'il faut vraiment que vous lisiez, qui s'appelle « Par-delà nature et culture », donc Philippe Descola, que vous voyez ici du Collège de France, donc de l'école de Lévi-Straussienne. Et donc, il a regardé les éléments les plus basiques, hein, les briques élémentaires de nos ontologies, hein, et qu'on va retrouver dans les religions, dans les philosophies, et même en sciences parfois. C'est-à-dire, en fait, vous avez le corps et l'âme, donc c'est très occidental, mais ça fonctionne assez bien. Et donc, vous avez 2 fois 2, le corps et l'âme, donc 2 fois 2, 4. Vous avez 4 possibilités de vous situer par rapport au monde. Nous, nous sommes très dualistes. C'est-à-dire, il y a le corps et il y a l'âme. Donc, Descartes, dans l'expression la plus forte de cela. L'inverse, enfin, on peut faire plusieurs inverses, le totémisme. Le totémisme est un monisme où là, mon corps et mon âme s'identifient complètement à un totem. D'accord ? Vous avez l'analogisme. Donc c'est l'analogie, l'analogisme, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les cultures d'Amérique centrale, mais ce qu'on appellera chez nous la numérologie ou l'astrologie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une entité dans le cosmos avec laquelle je diffère évidemment par mon corps et par mon âme, mais qui est apparue dans le cosmos en même temps que moi et qui disparaîtra en même temps que moi. Donc tout ce qui est, la mantique vient lié à l'analogie. Et vous avez effectivement l'animisme, où c'est l'inverse de chez nous, dans l'animisme, c'est-à-dire que on accepte que les entités qui sont autour de nous partagent les mêmes propriétés de notre pensée, de ce qui fait nous en termes de spiritualité en tout cas, ou de propriétés psychologiques ou mentales. Par contre, on diffère par le corps. Et ça, c'est ce que vous retrouverez plus dans l'Extrême-Orient. Eh bien, ceci s'est mis en place par Philippe Descola. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir qu'effectivement, ces éléments plus fondamentaux de nos croyances et nos représentations du monde, eh bien, en fait, sont extrêmement anciens, puisque, en fait, ils vont remonter peut-être à 12 000 ans ou 20 000 ans. Je vais l'évoquer dans un instant. Mais est-ce que nous sommes, nous, purement dualistes? Eh bien, voici 4 éléments de nos sociétés. Donc, est-ce que nous sommes totémistes? Donc, c'est là la photo en haut à droite, donc qui identifie, donc, effectivement, une activité qui est celle, donc, évidemment, des pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont un totem, donc, qui est là, qui représente, évidemment, leur groupe. C'est le totem. Bon, c'est ce que font les scouts, hein, etc. Voilà. Donc, on a des totems. Voilà. Donc, les mascottes. Voilà. Ce sont des totems. L'animisme. Alors, l'animisme, évidemment, on n'est pas très animiste. Mais enfin, en général, quand notre ordinateur fonctionne, on n'est pas animiste. Mais quand il ne fonctionne pas, quelle saloperie de machine. Vous voyez ? Donc, on lui attribue des intentions pour vraiment nous embêter. Donc, des fois, à l'occasion, on est un petit peu animiste. Ou pourquoi les clés sont parties toutes seules de ma poche? Vous voyez ce que je veux dire? Non, on est tous un peu comme ça. Quand les choses nous énervent, on est tous un peu animiste. C'est assez rigolo. Franchement, il suffit de regarder les journaux et les petites annonces. L'astrologie, la numérologie, tous ces trucs-là, ça marche très bien. D'accord? Ça existe vraiment dans la société. Et puis, donc, l'analogie, là, ici, donc le dualisme. Ben, le dualisme, c'est effectivement, comme le dit très bien Michel Serres, c'est au cœur, évidemment, de ce qui a été mis en place dans la culture occidentale par ce qu'on avait appelé les clercs, c'est-à-dire donc les grandes religions, les grandes philosophies, et même les scientifiques. Hein. Nous, c'est le dualisme qui domine dans notre culture, mais tout en sachant qu'effectivement, dès que vous êtes dans d'autres activités, ces éléments ici ontologiques sont là. Donc, ce qui domine chez nous, c'est le dualisme, mais évidemment, les autres éléments sont encore là. Et du coup, donc, on ne va pas aller là. Comment comprendre cela? Eh bien, par exemple, tout à l'heure, voilà, je vous conseille, c'est sorti au mois de juillet. C'est le numéro de Pour la science du mois de juillet qui, effectivement, applique cette méthodologie donc, de la systématique moderne aux mythologies. Et en fait, il décrit, il a regardé en comparant les mythes et leur histoire, il a regardé et il décrit en fait 3 grands types de mythes. Alors, il y a d'autres familles, hein, mais pour l'instant, c'est celle étudiée. Il y a 3 grands types de mythes qu'on va retrouver non pas partout dans le monde, mais dans différentes parties du monde. Et pour quelle raison? Bah parce que les peuples se déplacent avec leur gène, leur langue et bien sûr leurs croyances. Je vous donne un truc qui peut vous surprendre, mais l'histoire du Yéti. Vous savez, le grand singe, là, comme ça, l'abominable homme des neiges, qui ne l'est pas d'ailleurs. Bah, le Yéti a existé et les peuples d'Asie centrale les ont connus. Parce que les derniers Yéti ont disparu, on les appelle Gigantopithecus, il y a à peine 100 000 ans. Mais ces peuples sont allés en Amérique. Donc, ils ont emporté avec eux le mythe du grand singe des bois. Et c'est ce qu'on appelle le Bigfoot en Amérique du Nord. Or, en fait, l'Amérique du Nord n'a jamais eu de singe. Donc, en fait, la légende du Bigfoot vient du fait qu'on a connu des grands singes dans l'Himalaya et le mythe a été transporté et, évidemment, a perduré. Donc, c'est quand même assez fascinant de constater cela. Donc, lui, il identifie 3 grands mythes que vous allez tout de suite connaître. Le mythe de type Pygmalion, c'est-à-dire l'homme seul, isolé, qui ne trouve pas l'amour ou l'affection, qui construit une effigie selon son désir, en tout cas ce qu'il voudrait, et qui évidemment est animé ensuite par la volonté d'un dieu ou d'une déesse, etc. Donc Pygmalion, c'est Athéna. Et bien ce mythe, c'est la version grecque, on la connaît, mais en fait on la retrouve dans beaucoup de cultures et qui a circulé donc, notamment en Eurasie. Un autre mythe, c'est le type Polyphène. Alors Polyphène, on le retrouve dans Ulysse, dans l'Odyssée. Donc il est avec le cyclope Polyphène, où Ulysse est enfermé avec ses compagnons dans la grotte, et là effectivement ils vont lui crever l'œil et ils vont s'échapper en se mettant sous les moutons que Polyphène essaie de tâter. Et bien ce mythe on le retrouve dans différentes parties du monde, et celui sur lequel je vais plus m'arrêter, un des plus courants, c'est la chasse cosmique. La chasse cosmique, c'est le chasseur qui va traquer un animal, et cet animal en fait va le tuer. Mais il y a toute une relation entre l'animal et cet homme. Cet homme va mourir, mais l'animal qui l'a percuté, lui, va monter au ciel. Donc, en fait, dans le mythe de la chasse cosmique, ben, c'est celui de Io et de la Grande Ourse. C'est celui avec Orion dans d'autres cultures. Donc, la façon de narrer le mythe peut être différente. Les animaux peuvent être différents. Ça peut être un bœuf, ça peut être un élan, ça peut être un cerf dans les populations qui sont près du cercle arctique. Et vous savez quoi? On a retrouvé qu'en fait, le déplacement du mythe de la chasse cosmique, qui remonte peut-être justement, tout à l'heure, j'ai attiré votre attention, peut-être que la scène du puits de Lascaux est peut-être la première représentation d'une chasse cosmique. On ne peut pas le vérifier, mais en tout cas, ça correspond assez bien à cela. C'est l'hypothèse qui était mise là. Donc ça voudrait dire que ces grands mythes ont évolué et se sont un petit peu modifiés, mais ça remonterait là à 20 000 ans. C'est quand même assez fascinant. Donc voilà où on en est aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire, et on suit d'ailleurs l'évolution, le déplacement du mythe de la chasse cosmique avec certains gènes, donc ça veut dire que ce n'est pas le gène qui raconte le mythe, hein, on est bien d'accord, mais que c'est un fait d'histoire que les peuples se sont déplacés avec cela. Et donc aujourd'hui, on peut reconstituer le peuplement absolument fulgurant de notre espèce Homo sapiens depuis 100 000 ans sur la Terre, en regardant les arbres des gènes, les arbres de parenté, bien sûr, des gènes, des langues et des mythes, parce que, comme disait Lévi-Strauss, c'est un fait d'histoire. Et du coup, de quand apparaissent ces grandes religions? Alors moi, je ne vais pas toucher à ça, parce que je ne suis pas un spécialiste. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, bien sûr. Mais effectivement, tout ceci va amener des changements avec le néolithique. Donc, on va avoir apparaître les grandes agricultures. Et donc, ce que j'ai constaté, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais mes copains spécialistes de cette période ne m'ont pas précisé les choses, j'ai remarqué qu'effectivement, alors sans le savoir depuis longtemps, qu'il y a plusieurs foyers indépendants de l'invention des agricultures, et en fait, ce qui est intéressant, n'apparaissent de grandes civilisations et des villes que là où il y a de l'agriculture et aussi la domestication des animaux. Ça, je vous livre cette corrélation, je n'ai pas d'interprétation. Mais par exemple, il y a eu des agricultures qui ont été inventées en Afrique ou ailleurs, et on n'a pas ce phénomène. Et partout, on va voir apparaître les grandes cités, et là, évidemment, des grandes religions. Voici la répartition des grandes religions actuelles, qui ont aussi une histoire, mais ça, les grandes religions, des gens bien plus compétents que moi vont en parler. Et il y a un phénomène nouveau qui va émerger à la fin de la préhistoire, c'est-à-dire du paléolithique, avec l'émergence du néolithique. Et longtemps, on avait pensé qu'en effet, l'émergence, alors là c'est sur le Proche-Orient bien sûr, l'émergence des grandes cités, des grandes constructions, était liée évidemment à des enjeux, bien sûr, économiques. Le pouvoir central, les cités, etc. Et en fait, là vous avez un site devant vous qui s'appelle Göbekli Tepe, qui se retrouve, qui est en Anatolie, donc près de la Syrie, donc là où évidemment ça ne se passe pas très bien en ce moment. Et Göbekli Tepe date de 12 000 ans par rapport à aujourd'hui. Vous avez cinq grands cercles comme ça, avec des grands T, et avec, pour la première fois, l'apparition vraiment de statues anthropomorphes. Donc on a un vrai changement, et ce qui est incroyable, ce site, en fait, l'économie de ces peuples, ce sont des chasseurs-collecteurs. Donc on est en train de s'apercevoir que l'agriculture n'est pas installée, mais que déjà, pour des raisons rituelles, ces peuples avaient mis en place des lieux de culte, de réunions annuelles, extrêmement importants, qui justifiaient des constructions, et ça durait plusieurs siècles. Et d'un coup, donc, ça va être éliminé, peut-être parce que les grandes religions que vous connaissez vont apparaître à cette époque, juste un petit peu après, et vont effacer ces anciennes croyances. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que c'est pareil dans le Yucatan, c'est pareil au Mexique. En fait, ces grandes cités, ces grandes pyramides n'ont pas été des villes dans lesquelles on avait l'activité commerciale, artisanale, politique, etc. C'était des lieux qui ont été construits, édifiés, avant tout pour des raisons religieuses, quand je dis religieuses au sens large, c'est-à-dire se réunir, faire des cérémonies et partager un ensemble de croyances, de rituels et de valeurs communes. Et c'est pareil, certainement, pour les mégalithes, pour Stone Age, etc., ou les Moa. Il y a tout un âge des mégalithes qui apparaît aussi vers 6000 ans, qui va être un phénomène assez mondial. Alors, est-ce qu'on pourrait croire que c'est une seule culture? Non. Pourquoi on trouve des pyramides partout? Là, c'est facile à comprendre. La pyramide, c'est la construction la plus simple à faire pour s'élever vers le ciel. Rien de plus simple d'un point de vue archéologique. Donc plus c'est simple, plus c'est réparti partout. Les mégalithes, que ce soit les Moas, que ce soit que ce soit donc ce que vous voyez ici, ou les obélix. Dès qu'on parle de Karnak avec Obélix et Astérix, je m'en plante évidemment. Mais en tout cas, c'est pareil, l'obélix, c'est pareil, donc c'est dirigé vers le ciel. Donc là, on a des changements considérables qui apparaissent au Proche-Orient pour les plus anciennes manifestations. Avec les agricultures, on va voir apparaître les premières cités. Une des plus anciennes d'ailleurs, c'est Jéricho. Et Jéricho, c'est intéressant, c'est une des plus anciennes cités qu'on ait bâtie. Et Jéricho, c'est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, c'est la seule ville qui a été habitée continuellement depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas pour rien qu'on la retrouve bien sûr dans la récit biblique, etc., ou les autres, évidemment. Et là, donc, ce qui se met en place, évidemment, ce sont d'autres croyances, et on va voir de plus en plus apparaître, évidemment, à cette époque-là, des croyances dans lesquelles le nombre de divinités va se réduire, on va voir apparaître des structures centralisées de plus en plus complexes pour l'expression donc, des réunions et des formes religieuses, la religion étant reliée évidemment, hein, et puis donc de plus en plus des formes anthropomorphiques, donc évidemment les grandes pensées religieuses vont donc plus se centrer sur l'homme, et comme on le voit ici, dans un site qui est à côté de Jéricho, qui est représenté là, donc vous voyez, tout ceci, donc avec des yeux, c'est intéressant, on ne les avait pas avant. Donc le regard, hein, le regard sur le monde, tout ça est tout à fait récent à cette époque-là. Évidemment, l'histoire moderne va commencer avec Ur, donc là je vais m'arrêter parce que c'est des mondes que vous connaissez mieux que moi, mais quand arrivent les grands empires, avec les cités de Ur ou d'Uruk, là évidemment ce sont les grandes villes telles qu'on les connaît, avec le pouvoir religieux, le pouvoir politique qui sont au même endroit, avec donc des structurations de la société, et là on a des sociétés de plus en plus verticales, avec donc évidemment l'apparition des clercs, des religieux, des prêtres, de la noblesse, des guerriers, donc des sociétés dont nous sommes à peine sortis d'ailleurs en termes de structuration, etc. Et là, nous sortons bien sûr complètement de la préhistoire, mais ceci est très récent parce que c'est plus ancienne cité avérée, c'est 5000 ans. Hein. C'est 3-4 000 ans, c'est les premiers âges des métaux. Hein. Et donc, tout ceci, donc, le monde dans lequel nous sommes est tout à fait récent. Et donc, c'est intéressant pour nous de regarder ces phylogénies. Et effectivement, malgré l'idée d'un matriarcat ancestral, il est très clair qu'on voit apparaître de plus en plus donc, des divinités anthropomorphes. Il est intéressant de constater d'ailleurs que le panthéon égyptien a plusieurs divinités, mais elles sont toutes bipèdes, elles sont anthropomorphes. Et il y a tout de suite le dieu Ra qui va dominer très rapidement. Donc, les monothéismes commencent à se mettre en place vers cette époque-là de différentes manières avec des dieux masculins dominateurs évidemment qu'on retrouve dans la Bible et dans les autres récits, mais qui émergent évidemment la Bible étant elle-même reprend des éléments par bricolage entre guillemets, hein, mais c'est comme ça que fonctionne l'évolution du site de Gilgamesh. Et donc voilà donc où on en est avec une humanisation des dieux. Donc on dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais évidemment d'un point de vue scientifique et l'évolution donc de ce que j'ai montré rapidement, c'est les hommes qui ont créé les dieux de plus en plus à leur image au cours donc de ces périodes. Et donc je terminerai là. Effectivement, très clairement, lorsqu'on a affaire à des sociétés qui sont entourées des forces de la nature, de la diversité des espèces, etc. Donc évidemment, on va retrouver des références de plus en plus liées à l'animisme, le totémisme, etc. Et effectivement, nous nous sommes issus de sociétés dans lesquelles l'homme s'est mis au centre du cosmos, évidemment, et l'homme, donc évidemment, va mettre en place donc des systèmes de religion qu'on retrouve partout. Hein, même si en Inde, il y a une diversité de dieux très, 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 très importante, on voit émerger quand même une entité plus centrale, plus dominatrice, plus masculine, que l'on a aussi chez les Aztèques, etc. Mais quand même, les visions, les monothéistes les plus affirmées sont évidemment ces grandes religions qui sont issues du Proche-Orient et qui sont celles de la plupart des personnes qui assistent donc à cela. Mais en conclusion, donc effectivement, on est en train de comprendre qu'effectivement, les grandes religions l'ont compris évidemment aujourd'hui. Même si elles ont des prétentions universalistes, ça fait partie donc évidemment de leur credo, si je puis dire, mais on a bien compris aujourd'hui qu'effectivement, ce sera un monde qui sera pluriel d'un point de vue des religions, et que, en fait, comme j'aime à dire, et Je vous le dis clairement, ce n'est pas un acte de foi devant vous. Moi, je ne suis pas croyant, je suis un non-croyant, je ne suis pas dans un athéisme de combat. Mais moi, j'aime à dire qu'il n'y a pas un seul chemin qui mène à l'homme. Et très clairement, les grands monothéismes le montrent. Et puis, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres formes donc, d'humanisme qui existent sur cette terre. Et même les athées ont aussi des formes de la morale, ont aussi des engagements éthiques, etc. Je vous rassure. Et il va falloir qu'on comprenne que si notre passé était pluriel, ben, que notre avenir aussi sera pluriel. Et je vous remercie. Rapidement, du coup, oui, pardon.
Oui, donc, merci infiniment, Pascal, pour ce petit panorama de quelques petites années. Quelques questions rapidement avant de laisser Pascal partir. N'hésitez pas. Alors, si vous avez des questions, il faut appuyer sur le bouton devant vous pour être enregistré.
Oui, bonsoir. D'abord, merci pour cette conférence. J'ai appris beaucoup de choses, j'avais des milliers de questions à me poser. Mais j'en ai une en particulier concernant l'Amérique du Nord et du Sud.
Oui.
Vous avez dit finalement, c'est l'Amérique du Sud qui a été la première, contrairement à ce qu'on pensait, par le détroit de Bering.
Dans l'état actuel des connaissances. Mais il y a eu des passages par Bering, hein, c'est clair.
D'accord, parce que...
Mais plus récent, plus récent.
D'accord, comme vous disiez en même temps que le Bigfoot venant d'Asie, ça faisait une contradiction. Voilà.
Non, oui, si, pardon, oui, j'aurais dû préciser, il n'y a pas de contradiction, je n'ai pas été assez clair. Donc il est très clair qu'aujourd'hui, la génétique comme la linguistique et les mythes nous montrent bien qu'il y a eu trois vagues de population. Alors par exemple, c'est intéressant, on sait depuis l'année dernière qu'il y a une vague qui s'est répandue rapidement, quasiment du Pays Basque, qui est passée au nord de l'Himalaya et qui est arrivée, donc très rapidement, et qui va donner les Algonquins. Et on retrouve le même mythe, notamment de la chasse cosmique, avec des variations, bien sûr, parce que quand on est du côté des Basques, c'est la vache. Quand on est chez les Évennes, c'est plutôt... ça sera plutôt donc je vais pas dire un renne, mais quand vous êtes en Amérique du Nord, ça va être un cerf. Voilà. Donc, mais en tout cas, si les éléments... dès que tu changes, la structure reste la même. Donc c'est une analyse sur les structures, donc c'est important. Donc incontestablement, il y a eu plusieurs passages par le détroit de Bering, mais on est en train de s'apercevoir que ça naviguait beaucoup plus tôt qu'on l'imaginait, et donc il y a eu des passages certainement par le Pacifique, quoi. Je veux dire, voilà, et donc ça...
Des passages par le Pacifique, pas par l'Afrique,
alors il y en a aussi qui pensent qu'il y a eu des passages par l'Atlantique Nord, et peut-être aussi directement par l'Afrique, parce qu'effectivement, je veux dire, ils sont partis avec la route du Rhum, mais ils étaient à moitié bourrés, parce que déjà 15 à cette plantée. Non, c'est très dur quand même, c'est pas drôle pour eux. Mais très rapidement, les Açores, etc., c'est rapide, hein, ce qu'a fait Christophe Colomb. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait eu des passages comme cela. Donc on est en train de découvrir qu'il y a aussi une plus grande diversité de peuplement des Amériques qu'on imaginait. Alors d'ailleurs, c'est troublant, parce que dans un site de Colombie, on a une peinture, parce qu'il y a des peintures rupestres, il y a un bateau qui ressemble étrangement au bateau qu'on trouve dans la terre de Kimberley. Le Kimberley était la région orientale de l'Australie. Donc semble-t-il que c'est peut-être parti un petit peu de là. Et on a des typologies de certaines populations qui sont très africaines. Hein. Voilà, tout ça, c'est en train de changer à toute vitesse. Je vais vous dire, je trouve ça fascinant. Voilà, donc nos petits repères tout simples. Ce que je vous raconte, ça fait même pas un an qu'on sait. Hein, vous voyez, donc ça avance très vite. Ouais. Mais surtout, le point important, c'est évidemment, je ne dis pas ça pour provoquer, mais on voit bien qu'avant, le mythe de la création, ça n'a jamais été de dire qu'il n'y a rien eu avant, soyons très clairs. Mais c'est de dire qu'on s'aperçoit que néanmoins, on a des éléments fondamentaux qui sont au cœur de toutes nos réflexions philosophiques et même scientifiques, je l'ai dit, et dans la religion. Ces ontologies fondamentales, on voit bien qu'elles sont encore plus anciennes que la construction de ces grands modes de pensée. Et donc, nous avons des bagages très puissants, et quand dans les sciences humaines, surtout façon française parfois, une partie d'entre elles, ils nous disent « ouais, nous la biologie, on la méprise, et en fait les cultures évoluent plus vite que les gènes », on est en train de s'apercevoir que nos éléments de culture et de narration sont peut-être plus anciens que certains de nos gènes. Donc c'est des phénomènes de coévolution, et on sait aujourd'hui que des choix culturels ont des effets sélectif. Par exemple, on sait très bien dans la diversité des différentes obédiences du judaïsme, il y a des groupes qui sont très isolés pour des choix de la pratique religieuse dans des groupes assez orthodoxes, et on sait qu'il y a des profils génétiques qui sont très étroits. Donc ce n'est pas les gènes qui ont fait qu'ils sont orthodoxes, c'est une pratique religieuse qui est assez peu ouverte au monde extérieur. Pardon, parce que je vous vois là, je suis un monsieur, évidemment, mais ça a des exemples très bien connus. On voit que les choix qui sont faits sur une pratique religieuse ont un effet sélectif sur la diversité biologique. Donc voilà, ce sont des éléments aujourd'hui qu'il faut considérer. Donc on s'aperçoit qu'effectivement nos cultures peut-être évoluent moins vite, enfin en tout cas des éléments évoluent moins vite, parce qu'ils sont puissants, attendez. Mais nos rapports ontologiques au monde, c'est puissant, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains dans le rapport à l'autre, au cosmos. Donc on comprend bien que ces éléments aient une stabilité qui n'est pas que centenaire, et on est en train de découvrir qu'elle est multimillénaire, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Puis on sait très bien, les catholiques le savent bien, etc., que le catholicisme a cette capacité, mais comme d'autres grandes religions, d'aller absorber des éléments locaux et les retravailler, ce qui est tout le problème de la doctrine de la foi, etc. Donc mais voilà, on sait très bien, tout ça, c'est évolue, bien évidemment. C'est évolue sur les formes, sans toucher forcément aux aspects fondamentaux. Je vous en prie, monsieur.
Donc tout d'abord, merci pour cette conférence. J'ai aussi souhaité cette formation, session, pour pouvoir, dans le bon sens du terme, confronter des idées et des croyances. Et alors, je me suis beaucoup déjà, enfin, beaucoup intéressé. Je me suis, comme tout homme de foi, nous sommes interpellés aussi par découverte scientifique depuis plus d'un siècle maintenant, deux siècles même. Ma question est celle-ci. Il est clair que pour la théorie de Darwin, cette dernière a ébranlé certaines convictions religieuses et moi je dirais plutôt une certaine lecture du texte religieux. C'est-à-dire, vous parlez de fondamentaliste, de créationniste. Moi, je parle souvent c'est un terme un peu barbare, mais de littéraliste.
Oui, c'est ça, oui, absolument. Oui, voilà, ils prennent à la lettre, bien sûr.
Qui se faire une lecture stricte du texte et qui voit cette opposition entre la science et la croyance religieuse. Moi, ma question est celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on suit aussi les dernières découvertes et les dernières thèses, on voit aussi qu'il y a débat. Il y a un débat chez les scientifiques sur l'origine du monde, sur l'évolution. Même lorsqu'on lit un petit peu, bon, j'ai pas lu le livre de Darwin, mais certains experts qui en parlent, lui-même laisse un certain nombre de questions
très
fortes en suspens. Et là, ma question, c'est votre avis que je demande, je sollicite, est-ce qu'il y a aussi des fondamentalistes de l'évolutionnisme, c'est-à-dire des gens qui, excusez-moi, c'est un peu...
Non, vous avez raison, mais il y en a.
Voilà, et qui, eux aussi, quelque part, n'acceptent pas que nous sommes encore dans la thèse, la supposition, je ne dis pas qu'elle est basée sur des faits scientifiques, mais il y a encore une part d'inconnu, et qu'on doit aussi avoir beaucoup de modestie quant à notre prétention de pouvoir expliquer l'origine du monde et l'évolution des espèces. On le voit bien dans votre exposé, qu'une découverte, qu'un squelette, qu'un fragment, qu'une nouvelle approche peut changer de A à Z en quelques années, en quelques mois, des convictions très fortes qui étaient partagées par les scientifiques, les anthropologues jusque-là. C'est votre avis que je suis.
Oui, alors nous, ce n'est pas des convictions, ce sont des modèles. Et les modèles, pour nous, ils doivent être réfutables, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir les tester. Donc on va déployer des recherches, soit pour consolider ou l'améliorer, ou quasiment le réfuter. Et auquel cas, on changera de modèle. Donc d'abord, ça permet matérialiste, hein, notre méthode. Donc ce qui fait qu'on ne peut, nous, les scientifiques, on ne prétend expliquer que ce qui est de l'ordre du matérialisme, c'est-à-dire des faits, et que ça ne fait pas intervenir de la métaphysique, ou des lois, ou des croyances. Donc ça fait pas. Alors maintenant, on peut derrière cela se dire, moi je pense que la science confirme ce que je pense. Alors évidemment, il y a tout un domaine qui est très actif, donc on appelle l'archéologie biblique. Parce qu'évidemment, dans la Bible, il y a des éléments de l'époque qui sont complètement factuels et qu'on retrouve grâce à l'archéologie. Mais c'est très dangereux, et donc j'ai beaucoup travaillé, enfin échangé avec des théologiens sur ces questions-là. Nous, la science, c'est le principe même, une théorie scientifique est réfutable. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas que c'est la vérité, Mais on dit que c'est le meilleur état des connaissances à un moment donné. D'accord. Or, on a la foi, on ne l'a pas. Et la notion de réfutabilité pour la foi, c'est pas... ce serait inapproprié de se dire « j'applique la méthodologie de la science, expérimentation, observation, réfutabilité dans le domaine de la foi et de la croyance », ça n'a strictement aucun sens. Par contre, oui, les intégristes comme M. Dawkins, etc. C'est pour ça que j'ai exposé, je suis très critique là-dessus. Stephen Jay Gould essayait de maintenir... c'est-à-dire, en fait, on n'y arrive pas. Mais c'est en tout cas se donner cette position éthique de se dire « j'essaye de bien comprendre les choses ». Maintenant, il peut arriver que certaines personnes interprètent ce qu'on connaît actuellement des origines de l'évolution de la ligne humaine en disant « ça conforte ma foi ». Ça, ça ne me trouble pas, tant que, au nom d'une conception de la foi, on n'aille pas modifier, interférer le champ des sciences. Vous voyez ce que je veux dire? Si on respecte cela, il n'y a aucun problème entre les scientifiques, qui soient croyants ou pas, et les domaines de la croyance et de la foi. Et ça, c'est vraiment très important de le rappeler. Et toujours, j'ai des très beaux textes Darwin, de Thomas Huxley. C'est Thomas Huxley, David Darwin, qui invente le terme d'ailleurs d'agnostique. Donc, l'agnostique, il dit, je ne pose pas la question de l'existence de Dieu, je laisse cette question ouverte. Par contre, la science, d'où la revue Nature, c'est la nature, c'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est faire cela. Alors, il y a des histoires amusantes. Quand Galilée dit, la religion dit comment on va au ciel et la science dit comment on va le ciel. Buffon dira, nous, on ne s'intéresse pas aux causes premières, c'est-à-dire à l'origine, mais aux causes secondes, une fois que c'est créé. Et c'est là que Darwin pose un problème, parce que lui, il touche aux origines. Vous voyez, d'avant, il y avait un consensus, c'était l'origine, on n'y touche pas. Darwin y touche. Voyez, donc, c'est là que ça pose le problème de l'émergence. Mais soyons clairs, on n'a pas tout expliqué, loin de là. Bien sûr, notamment... D'où vient ce besoin ontologique des hommes depuis peut-être 2 millions d'années? On n'a pas la réponse. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si on n'aura jamais, mais c'est un fait. Et il y a une scène, parce que je terminerai là-dessus, je dois y aller, je suis en retard, pardonnez-moi, mais je terminerai par cette scène qui est très drôle, que je trouve, c'était M. Stephen Hawkins, donc le grand cosmologiste, qui rencontre le pape Jean-Paul II. Et comme vous savez, tous les deux n'étaient pas en très bon état physique pour des raisons différentes. Et Jean-Paul II se rapproche de Stephen Hawkins et lui dit dans l'oreille, « Professeur, nous sommes bien d'accord. Avant le Big Bang, c'est nous. Après, c'est vous. » ce que je trouve absolument magnifique. Donc effectivement, et franchement, les positions à l'époque de Jean-Paul II, Benoît XVI, c'est un petit peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, le pape François, à partir d'un moment, ils nous disent... Alors les catholiques, pardon, je ne sais pas du côté des juifs, je ne sais pas trop du côté de l'islam, mais j'ai un ami, Malek Chebel, qui me dit donc l'islam n'a pas eu de problème fondamentalement avec les théories de l'évolution. C'est simplement les fondamentalistes américains qui ont pollué une partie de l'islam, qui n'avaient pas besoin de ça avec les problèmes de l'islamisme. Donc, mais là aussi, moi je suis agacé, on a des glissements sémantiques, des gens qui vous disent dans les débats, l'islam tolérant, je dis non. Si vous dites l'islam tolérant, ça veut dire que par essence, il est intolérant, ce qui n'est pas vrai. Il y a l'islam, il y a un islam qui est intolérant. Donc, surveillons nos vocabulaires dans les débats. Aujourd'hui, c'est très pernicieux de dire qu'il y a un islam, de dire islam tolérant, ça veut dire que par essence, il n'est pas tolérant. Or, en fait, l'islam a eu des... je sais pas, je n'ai pas d'amis musulmans, etc. Bon, il y a aussi il y a des chrétiens intolérants, il y a des juifs intolérants, et on est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement fâché lorsqu'on enferme les gens, soi-disant parce qu'ils sont croyants, pas croyants ou scientifiques, on voit que c'est beaucoup plus complexe que cela, effectivement. Et la science, évidemment, quand elle prétend dire la vérité, là, levez-vous et dites non, la science n'a pas à dire la vérité, elle est en fait de dire la meilleure façon de décrire le monde dans l'état actuel de nos connaissances. Et j'aime à dire que la science est une œuvre collective qui mobilise la rationalité et qui est universelle et qui est en fait l'œuvre d'hommes et de femmes de différentes religions, croyances ou pas dans le monde. Et c'est ça qui fait la beauté de la science et donc ce qui fait qu'effectivement, on peut pas, il faut la prendre ainsi donc, par rapport à cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très vigilant parce qu'effectivement, je suis aussi vigilant pour défendre la laïcité que l'on détourne la science pour des raisons religieuses ou qu'on la conteste pour des raisons religieuses ou que des scientifiques fassent la même chose pour des raisons qui leur sont propres, donc ce que j'appelle vous savez, l'athéisme de combat et là je terminerai par je vais montrer ça à Xavier tout à l'heure, un très bel article d'Alain Touraine, une très belle interview Alain Touraine, donc le sociologue, et il dit oui effectivement non pas avec l'âge, non pas parce que peut-être la grande échéance approche. Il dit, mais j'ai fini par apprendre qu'effectivement, la religion, ce n'est pas que la superstition, que peut-être aussi, et certainement, il y a des engagements vraiment humanitaires qui sont motivés par la religion. Donc en fait, il dit très bien qu'il n'y a pas un seul chemin qui mène à l'humanisme. Et c'est Et moi, c'est le credo que je défends. Je n'ai pas si idéaliste que cela, me semble-t-il. Mais effectivement, vous avez raison. Sur l'histoire du fondamentalisme religieux, c'est quoi ? On sait bien l'histoire de l'Amérique, c'est des gens qui sont partis tout seuls, comme ça, dans les grandes plaines, une Bible et un fusil, hein, c'est un film célèbre. Et donc, du coup, il n'y avait pas l'exégèse, il n'y avait pas la tradition, il n'y avait pas l'interprétation qui était là. Et donc, les personnes n'ayant pas de recul, c'est du littéralisme, et d'un seul coup, sans le littéralisme, vous amène à du fondamentalisme, voire à l'intégrisme, évidemment, quand les sociétés viennent à dériver. Donc, il ne faut pas laisser les croyants tout seuls, ni les scientifiques. Je vous remercie, je dois y aller, je suis désolé.
Merci beaucoup. Encore merci Pascal et bon retour. Deux conclusions. Alors je ne sais pas dans quel ordre, François-Louis ou Guilain. Guilain, vous voulez, je pense, prendre la parole conclusive ou François-Louis.
J'étais un peu retenu en bas parce que je pensais aussi des raisons de. J'espère que la prochaine fois nous serons un peu plus au complet. J'ai un sénateur qui est en train d'arriver, un pasteur évangélique aussi. Et il y a quand même pas mal d'auditeurs qui ont renoncé. Un imam qui est à Reims, qui est en son TGV. Bon, je crois qu'il faudra avoir un auditeur dans la CGT. Parce qu'aujourd'hui, ça a été un jour un peu compliqué pour venir jusqu'ici pour certains. Voilà, donc c'était juste l'occasion pour moi aussi de souhaiter la bienvenue à ceux qui ont réussi à venir. De remercier aussi Pascal Pic,
votre continuation,
qui va reprendre son train en espérant qu'il l'ait. Et puis, je laisse bien sûr la parole à M. le Président.
Et Cyril avait un mot à dire encore, c'est ça?
C'est compliqué de prendre la parole après, parce que je pense que je vais passer mon tour.
Tu passes ton
tour?
Ouais.
Ok. Moi, je vais être très bref.
Guilain, allez-y sur le... Bah, venez là, si vous voulez.
Si vous voulez.
Venez ici, ouais.
Impressionnant de prendre la place de l'orateur Pic. Parce que je savais une chose, c'est qu'il fallait que je me forme. J'avais un doute, j'ai plus de doute sur ce que j'ai entendu et l'importance de se former. Alors voilà, moi j'ai pris la présidence de cet institut il y a très peu de temps, donc je suis nouveau dans ce dispositif, j'en suis profondément heureux et j'ai décidé de suivre la session numéro 2 pour comprendre d'une part et d'autre part pour être capable ensuite de savoir qu'est-ce que cet institut a dans le ventre. Et de pouvoir dialoguer et discuter parce que je sais que nous sommes sur des sujets quand même extrêmement sensibles. Et que ce n'est pas parce que les sujets sont sensibles qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, s'y intéresser. Donc moi je suis heureux de suivre cette session avec ceux qui vont faire partie de la route. Je voudrais dire que cet institut, voilà, ça fait 2 ans qu'il existe. Il commence doucement, mais comme tout ce qui commence doucement, il faut qu'il aille loin, il faut qu'il ait une grande ambition, il faut qu'il soit audacieux et qu'il n'hésite pas à faire aussi des choses qui le dépassent. Parce que je suis convaincu, étant moi président d'un groupe de presse qui est catholique, que la connaissance, donc la compréhension, sont des facteurs de paix dans une société française qui fondamentalement ne s'aime pas. Et ça, c'est pour moi une grande tristesse. Donc je pense que si nous sommes des facteurs de paix et que si nous rayonnons une fois cet institut et tous ses cours et conférences et autres travaux dirigés ingurgités, je crois que c'est quelque chose de fort et quelque chose d'essentiel. Il suffit de voir aujourd'hui le monde politique, même l'état, je dirais souvent de la décrédibilisation d'un certain nombre de personnalités, voire même d'ailleurs dans certaines églises. Il faut arriver à ce que nous soyons, nous, des interlocuteurs de paix et que nous soyons compétents pour ça. Et en tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de monter à bord. C'est pour me former. C'est pour savoir de quoi je parle et être capable ensuite de me tourner vers l'autre. Parce qu'au fond, actuellement, j'ai peur de l'autre. Je ne le connais pas. Et donc, j'ai besoin, pour le connaître, de connaître ce qu'il pense et ce qu'il est. Voilà. Et donc, je suis heureux, moi, de démarrer avec vous. Il y a beaucoup à faire, beaucoup, hein. Il y a beaucoup même de publicité à faire. Je crois que le recrutement est encore en cours, hein, me semble-t-il. Ça avance, Mais il ne faut pas hésiter aussi à en parler beaucoup autour de soi. Voilà, moi je m'arrête là parce que je vais être un auditeur de base. Et donc je vais plonger. Voilà, un grand merci en tout cas à tous et à chacun. Bienvenue à bord. Et nous allons maintenant nous immerger dans l'océan du mystère. Parce que Monsieur Pic, je n'avais jamais entendu, mais effectivement, on sort de là. Ça me rappelle des vieux souvenirs de classe, d'ailleurs. Je me disais, je comprends à peu près rien. 50 ans plus tard, je me dis, j'ai vraiment encore tout à apprendre. Voilà.
Merci beaucoup, Guylain.
Merci.
Eh bien, on se retrouve pour la prochaine conférence le 18 novembre, comme indiqué sur vos programmes. Au Grand Consistoire de France. Voilà, c'est pas le Grand Rex, comme disait Guillaume. C'est le Grand Consistoire qui nous fait le Haut Consistoire, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous accueillir. Donc on est ravis de se retrouver là-bas. Puis là, on a un petit peu de temps. Le CESE ferme ses portes à 20h, pardon. Donc on peut rester discuter tranquillement pour toutes vos questions que vous pouvez avoir. Donc j'ai présenté rapidement l'équipe. François-Louis, vous connaissez pour la partie notamment recrutement. Cyril, responsable pédagogique. Vous connaissez aussi Guillaume Deniaud, responsable administratif. Toutes vos questions administratives, c'est plutôt Guillaume qui traite ça. Fanny Lemaignan, toute la partie com. Moi-même, coordinateur général des missions diverses et variées sur l'Institut. Et voilà, et puis c'est présenté aussi. Voilà. Je coupe le micro. Un grand merci pour votre attention.
Merci. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'on peut faire un tour de salle pour se présenter chacun?
Oui, c'est une excellente idée.